Les moines étaient déjà au travail. Dans le scriptorium régnait le silence. Mais ce n'était pas ce silence qui résulte de la paix fertile des cœurs. Béranger, qui nous avait de peu précédés, nous accueillit avec embarras. Les autres moines levèrent la tête de leur travail. Ils savaient que nous étions là pour découvrir quelque chose au sujet de Venantius, et la direction même de leur regard fixa notre attention sur une place vide, sous une fenêtre qui s'ouvrait à l'intérieur sur l'octogone central. Bien que la journée fût très froide, dans le scriptorium la température était assez douce. Ce n'est pas par hasard s'il avait été disposé au-dessus des cuisines, d'où provenait une chaleur suffisante pour cette raison supplémentaire que les conduits des cheminées des deux fours situés au-dessous passaient à l'intérieur des piliers qui soutenaient les deux escaliers à vis placés dans les tours occidentales et méridionales. Quant à la tour septentrionale, du côté opposé à la grande salle, elle ne renfermait pas d'escalier, mais une grande cheminée qui ardait en répandant une agréable tiédeur. En outre, le pavement avait été recouvert de paille, qui rendait nos pas silencieux. En somme, le coin le moins réchauffé était celui de la tour orientale. Et de fait, je remarquai que, comme il restait des places libres par rapport au nombre de moines au travail, tous tendaient à éviter les tables installées dans cette direction. Lorsque plus tard, je me rendis compte que l'escalier à vis de la tour orientale était le seul qui menait en bas au réfectoire et en haut à la bibliothèque, je me demandais si un calcul savant n'avait pas réglé le chauffage de la salle de façon que les moines fussent dissuadés de fureter de ce côté-là et qu'il fût plus facile aux bibliothécaires de contrôler l'accès de la bibliothèque. Mais sans doute exagérais-je dans mes soupçons, devenant le pauvre singe de mon maître, car je songeais aussitôt que ce calcul n'eût pas été très fructueux en été. À moins, me dis-je, qu'en été ce côté ne fût le plus ensoleillé et donc encore une fois le plus évité. La table du pauvre Venantius tournait le dos à la grande cheminée et était probablement l'une des plus convoitées. J'avais alors passé une petite partie de ma vie dans un scriptorium. J'en passais une grande par la suite. Et je sais combien il en coûte de souffrance aux scribes, aux rubricaires et aux chercheurs de rester à sa table les longues heures d'hiver, avec les doigts qui s'engourdissent sur le stylet, quand déjà, avec une température normale après 6 heures d'écriture, les doigts sont pris de la terrible crampe du moine, et que le pouce fait mal comme s'il avait été écrasé. Et cela explique pourquoi nous trouvons souvent en marge des manuscrits des phrases laissées par le scribe comme témoignage de souffrance à la limite de la patience, telles que « Grâce à Dieu, il ne va pas tarder à faire sombre » ou bien « Oh, si j'avais un bon verre de vin » ou encore « Aujourd'hui il fait froid, la lumière est faible, cette peau est pleine de poils, quelque chose ne colle pas. » Comme dit un ancien proverbe, « 3 doigts tiennent la plume, mais le corps entier travaille dur et endure. » Mais je parlais de la table de Venantius. Plus petite que les autres, comme du reste celles qui étaient placées autour de la cour octogonale, destinées à des chercheurs, tandis qu'elles étaient plus larges sous les fenêtres des murs extérieurs, car destinées aux enlumineurs et aux copistes. D'ailleurs, Venantius aussi travaillait avec un lutrin, parce qu'il consultait probablement des manuscrits en prêt à l'abbaye, dont il faisait la copie. Sous la table était disposé un rayonnage bas où étaient entassées des feuilles non reliées, et comme elles étaient toutes en latin, j'en déduisis qu'il s'agissait de ses traductions les plus récentes. Elles étaient écrites de façon hâtive, ne constituaient pas les pages d'un livre, et auraient dû être confiées ensuite à un copiste et à un enlumineur, raison pourquoi elles étaient difficilement lisibles. Entre les feuilles, quelques livres en grec. Un autre livre grec était ouvert sur le lutrin, l'ouvrage sur lequel Venantius accomplissait ces jours derniers son travail de traducteur. À cette époque, je ne connaissais pas encore le grec. Mais mon maître lut le titre et dit que c'était d'un certain Lucien et qu'il s'agissait de l'histoire d'un homme transformé en âne. Je me souvins alors d'une fable analogue d'Apulée qui d'habitude était sévèrement déconseillée aux novices. Comment se fait-il que Venantius avait en cours cette traduction ? Demanda Guillaume à Béranger qui était à nos côtés.
C'est le seigneur de Milan qui l'a demandé à l'abbaye, et l'abbaye en retirera un droit de préemption sur la production de vin de plusieurs domaines qui se trouvent à l'Orient.
Béranger indiqua une direction lointaine d'un geste de la main, pour ajouter aussitôt
« Ce n'est pas que l'abbaye se prête à des travaux vénaux pour les laïcs, mais le commettant s'est employé pour que ce précieux manuscrit grec nous fût prêté par le doge de Venise, qui le reçut de l'empereur de Byzance, et quand Venantius aurait eu terminé son travail, nous aurions fait 2 copies, une pour le commettant et une pour notre bibliothèque. »
« Qui ne dédaigne donc pas de recueillir aussi des fables païennes, dit Guillaume.
La bibliothèque est un témoignage de la vérité et de l'erreur, dit alors une voix dans notre dos.
C'était Jorge. Encore une fois, je m'étonnais, mais j'aurais encore beaucoup à m'étonner les jours suivants, de la façon inopinée dont ce vieillard apparaissait soudain, comme si nous ne le voyions pas, lui, et que lui nous voyait nous. Je me demandais aussi ce que pouvait bien faire un aveugle dans le scriptorium. Mais je me rendis compte par la suite que Jorge était omniprésent dans toute l'abbaye. Et souvent, il se trouvait dans le scriptorium, assis sur un faux-desteuil, près de la cheminée, et il avait l'air de suivre tout ce qui se passait dans la salle. Une fois, je l'entendis demander à haute voix de sa place « Qui monte ?» Et il s'adressait à Malaki, qui, les pas étouffés par la paille, prenait le chemin de la bibliothèque. Tous les moines l'avaient en grande estime et s'adressaient souvent à lui pour la compréhension des passages difficiles, le consultant à propos d'une scolie ou lui demandant ses lumières sur la manière de représenter un animal ou un saint. Et lui regardait dans le vide avec ses yeux éteints, comme s'il fixait des pages toujours vives dans sa mémoire. Et il répondait que les faux prophètes sont habillés comme des évêques, et que les grenouilles sortent de leur bouche, ou bien quelles étaient les pierres qui devaient orner les murs de la Jérusalem céleste, ou que les arimaspes se doivent figurer dans les cartes géographiques près de la terre du prêtre Jean, recommandant de ne point exagérer en les faisant séduisants dans leur monstruosité, car il suffisait qu'ils fussent représentés de façon emblématique, reconnaissable mais non désirable, ou repoussant jusqu'au rire. Une fois, je l'entendis conseiller à un scoliaste sur la manière d'interpréter la récapitulatio dans les textes de Téconius, selon l'esprit de saint Augustin, afin qu'on évitât l'hérésie d'Onastite. Une autre fois, je l'entendis donner des conseils sur la façon de distinguer, en commentant, les hérétiques des schismatiques. Ou encore dire à un chercheur perplexe quel livre il devait chercher dans le catalogue de la bibliothèque et à peu près à quelle page il en trouverait mention, lui assurant que le bibliothécaire le lui remettrait certainement parce qu'il s'agissait d'un ouvrage inspiré par Dieu. Enfin, je l'entendis dire une autre fois qu'il ne fallait pas chercher certains livres, car ils existaient, c'est vrai, dans le catalogue, mais ils avaient été saccagés par les rats 50 ans plus tôt et se pulvérisaient désormais sous les doigts de qui le touchait. Il était en somme la mémoire de la bibliothèque et l'âme du scriptorium. Parfois, il tançait les moines qu'il entendait bavarder. « Hâtez-vous de laisser un témoignage de la vérité, car les temps sont proches !» Et il faisait allusion à la venue de l'Antéchrist.